Europe 1, le 22-22-30.
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est tout juste 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'est la plus grosse heure de la journée, les gens sortent du bureau, ils viennent faire leurs courses. Donc on va perdre entre 10 et 20% de chiffre d'affaires dans les commerces, chez les fournisseurs, chez les transporteurs. C'est 10 à 20% pour toute l'économie.
Les commerçants marseillais vont debout contre le couvre-feu à 18h. Les Bouches-du-Rhône pourraient faire partie des départements qui appliqueront la mesure dès dimanche. 20% de doses de vaccin en plus, avec le même nombre de flacons, c'est possible. Recommandation de l'Agence européenne des médicaments qui veut accélérer le rythme des vaccinations. L'Europe qui, en parallèle, double sa commande de vaccins Pfizer. 600 millions de doses au total. Reste maintenant à les répartir entre les pays membres. Et ce n'est pas si simple, nous dira notre correspondante à Bruxelles. Nous irons également à Londres où le variant anglais du Covid fait des ravages. Les hôpitaux sont en passe d'être submergés, s'alarme le maire de la capitale britannique. C'est du jamais vu en France. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, va faire l'objet d'une enquête judiciaire pour prise illégale d'intérêt. C'est du jamais vu depuis 1869. Donald Trump annonce qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de son successeur, Joe Biden. Dans ce journal également, Emmanuel Macron au milieu des socialistes pour rendre hommage à François Mitterrand, 25 ans après sa mort. Les premiers mots à la barre de Jacqueline Vérac, octogénaire enlevée et séquestrée à Nice il y a 4 ans. Et puis un Français qui file tout chousse, deuxième victoire de la saison pour le skieur Alexis Peintureau. Le temps de demain, marqué par l'arrivée de l'hiver dans le sud avec des chutes de neige en pleine, de la pluie et un ciel très couvert. D'ailleurs, le temps sera plus lumineux après la dissipation des brouillards matinaux, d'Indira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,65% à 5 706 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Le château de Versailles se prépare à rouvrir. Sa présidente Catherine Pégard est l'invitée ce soir d'Elisabeth Assayag et d'Emmanuel Duteil. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dès dimanche, donc, de nouveaux départements seront soumis au couvre-feu à 18h. C'est au moment où je vous parle officiel uniquement dans le Bas-Rhin. Mais d'après plusieurs élus, la mesure devrait aussi concerner le Haut-Rhin, le Vaucluse, le Cher, la Côte d'Or, mais aussi les Bouches-du-Rhône. Et à Marseille, l'idée d'un couvre-feu avancé de 2 heures a du mal à passer, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Stéphane Frangy.
2 heures de moins, une lourde sanction pour les commerçants comme Anuncia, qui est buraliste sur la Canebière. Elle ne comprend pas vraiment l'intérêt de la mesure.
Très embêtant, oui. Oui, actuellement, c'est très compliqué. On travaille beaucoup moins. Alors, disons qu'à 18h, alors c'est la catastrophe. Là, tous les commerces sont en train de couler. Mais de toute façon, ça ne tient pas debout, cette histoire. De toute façon, l'hiver, à partir d'une certaine heure, les gens, ils rentrent tous à la maison.
La fin de journée étant stratégique pour les commerçants, les conséquences pourraient être désastreuses, selon Luc Mingol, de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Les commerces fermés une heure plus tôt, c'est la plus grosse heure de la journée. Les gens sortent du bureau, ils viennent faire leurs courses. Donc, on va perdre entre 10 et 20% de chiffre d'affaires. Mais qui dit 10 à 20% de moins dans les commerces, dit 10 à 20% de moins chez les fournisseurs, chez les transporteurs. C'est 10 à 20% pour toute l'économie.
Et le bouleversement serait général, anticipe le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Jean-Luc Chauvin.
Ah qu'est-ce que ça change du 18h à 20h? C'est très simple. Quand les collaborateurs ils sortent du bureau, ils sortent entre 17h30 et 18h. Ça change la vie. Donc 18h, ça va empêcher un peu plus de vivre, ça va contraindre tout le monde avec des organisations différentes. Et à l'arrivée, ça n'aura pas beaucoup d'effet.
Et le préfet s'est réuni avec les élus locaux en cette fin de journée. La décision est attendue d'ici demain matin. Marseille, Stéphane Frangy, Europe
1. Côté vaccination, les cadences s'accélèrent. 36 000 Français ont été vaccinés aujourd'hui, plus de 80 000 en tout depuis lundi. Un rythme qui pourrait encore s'accélérer grâce à l'arrivée prochaine du vaccin Moderna, validé aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé, mais aussi en raison d'une recommandation de l'Agence européenne des médicaments. Son message, chaque flacon du vaccin Pfizer contient de quoi vacciner 6 personnes. Or aujourd'hui, on ne fait que 5 injections avec un flacon. Victor Dolande, expliquez-nous pourquoi on ne s'en rend compte que maintenant.
En fait, tous les médecins ou infirmiers qui ont manipulé le flacon du vaccin Pfizer depuis le début de la campagne de vaccination s'en sont rendus compte tout de suite. Le fabricant avait prévu plus large, un surplus prévu pour ajuster chaque seringue, je vous explique. Avant de procéder à l'injection, le soignant aspire avec l'aiguille le produit à l'intérieur du flacon. Et dans cette manipulation, les soignants en prennent toujours un peu plus pour ajuster parfaitement la dose à injecter, soit 0,3 ml. Mais même avec ces manipulations, il reste toujours du produit au fond du flacon. Dans les EHPAD, ce surplus était systématiquement jeté jusqu'à présent. Dans les hôpitaux, en revanche, certains soignants m'ont confié qu'ils allaient jusqu'au bout du flacon pour ne pas gaspiller. Il vaccinait donc déjà un sixième soignant avec ce surplus.
Et ça va changer quoi concrètement, Victor ?
Passer de 5 à 6 doses dans chaque flacon, ça va permettre d'augmenter les capacités de vaccination de 20%. C'est considérable, surtout pour la France qui n'est pas franchement en avance dans sa campagne de vaccination par rapport aux autres pays européens. Des seringues spéciales seront utilisées, mais uniquement lorsque les aiguilles standards ne permettent pas d'extraire une sixième dose du flacon, ce qui est très rare. En revanche, l'Agence européenne des médicaments rappelle qu'il est impossible de reconstituer des doses avec des fonds prélevés dans plusieurs flacons, car il existe en fait un risque infime de contamination. Donc ce sera 6 doses, mais pas une de plus.
Merci Victor Delande du service Société d'Europe 1, l'agence européenne des médicaments, qui indique par ailleurs qu'elle pourrait valider un troisième vaccin fin janvier, celui du laboratoire britannique AstraZeneca. En attendant, Bruxelles continue ses emplettes et double la dose. La Commission européenne a annoncé une commande supplémentaire de 300 millions de vaccins Pfizer-BioNTech. Au total, ce sont plus de 2 milliards de doses que l'UE a d'ores et déjà sécurisées. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles, comment va-t-on répartir ces centaines de millions de vaccins ?
Alors, il y a une règle de base, c'est que les 27 pays européens sont logés à la même enseigne, donc il y a une clé de répartition, celle de la population. La France, c'est 15% de la population européenne, donc on a un quota de départ de 15% de chaque contrat. Ça, c'est le principe, l'égalité. Mais ensuite, ça se complique, il y a 6 vaccins, 6 contrats, avec toutes les possibilités d'achat offertes par la Commission européenne, la France pourrait en théorie acquérir 345 millions de doses. Évidemment, c'est beaucoup trop. Donc, chaque pays fait des arbitrages, renonce à un quota, acquiert celui dont le voisin ne veut pas, attend avant de commander. Parce que voilà, les vaccins ont des prix, des conditions de conservation et des dates de livraison différentes. Exemple, les vaccins de Pfizer et Moderna qui sont déjà là, ce sont aussi les plus chers, entre 12 et 15 euros. Alors que celui d'AstraZeneca, qui devrait être autorisé à la fin du mois, lui, il coûte moins de 2 euros. Chaque capital pèse donc avantages et inconvénients. Certains pays, comme la Belgique où les Pays-Bas ont rendu publique la composition de leur panier de vaccins. En revanche, à ce stade, on ne connaît pas la composition exacte du panier français.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. On sait donc comment vont être répartis les vaccins entre les pays membres de l'UE, mais pour les répartir, il faut déjà les produire. Et c'est un défi mondial auquel va participer la France. La ministre chargée de l'Industrie a révélé ce matin sur Europe 1 que des vaccins vont prochainement être fabriqués sur notre territoire. 3 sites ont été identifiés, dont l'usine de Recipharm en Indre-et-Loire. Elle va produire le vaccin Moderna à partir de fin février, début mars. Voilà ce qu'a annoncé sur notre antenne Agnès Pannier-Runacher. De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, la situation sanitaire est hors de contrôle. Plus de 1300 décès ont été recensés ces 24 dernières heures. C'est un nouveau record. Le variant anglais très virulent fait des ravages, particulièrement à Londres, où l'on vous retrouve, Nina Guérino de la mairie. Le maire Sadiq Khan a lancé aujourd'hui un message alarmant.
Oui, et ce vendredi, le maire de Londres a parlé d'une capitale en crise, en cause la nouvelle variante découverte au Royaume-Uni qui se transmet bien plus rapidement entre les personnes. Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On compte environ 7000 malades actuellement hospitalisés à Londres, soit 40% de plus que le premier pic de la pandémie en avril. Plus de 800 patients sont admis à l'hôpital par jour, c'est le taux le plus élevé d'Angleterre. Le service ambulancier, lui, prend actuellement jusqu'à 8000 appels quotidiens, soit presque 2 fois plus qu'une journée bien remplie. Le personnel hospitalier est donc sous une extrême pression, explique sur Sky News Sadiq Khan, très inquiet.
J'échange avec le personnel hospitalier au moins une fois par jour. Ils sont stressés, ils sont sous tension. La plupart d'entre eux sont traumatisés par ce qu'ils voient. On m'a dit que c'était comme être au sein d'un théâtre de guerre.
Le maire a déclaré l'urgence Covid dans la capitale. Cela signifie demander des ressources et une assistance supplémentaire au gouvernement. Les services d'urgence et de sécurité seront sur le pont pour tenter de faire face aux prochaines semaines qui s'annoncent chaotiques.
Nina Guérino de la mairie, correspondante d'Europe 1 à Londres. L'Iran interdit les vaccins anti-Covid américains et britanniques. On ne peut absolument pas leur faire confiance, a déclaré l'ayatollah Ali Khamenei. Le guide suprême de la révolution islamique estime que ces vaccins pourraient servir, je cite, à contaminer son pays où le virus a d'ores et déjà fait 56 000 victimes, selon les chiffres officiels.
Europe Soir, le 22-22-30.
C'est une annonce qui en dit long sur la défiance qui règne entre les magistrats et Éric Dupond-Moretti. Pour la première fois dans l'histoire, un ministre de la Justice en exercice va faire l'objet d'une enquête judiciaire pour prise illégale d'intérêt. Enquête qui sera menée, Chloé Triomphe, par la Cour de justice de la République.
Et oui, c'est le résultat de plusieurs plaintes et signalements déposés cet automne, et notamment celle des syndicats de magistrats. C'est l'aboutissement de la guerre ouverte entre ces derniers et le garde des Sceaux, qui sera donc, vous l'avez dit, dans les prochains jours, visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt. Alors le fond de cette affaire, c'est toujours le même grief qui agite la magistrature depuis quelques mois, et qui se résume principalement en deux points. D'abord, le fait qu'Éric Dupond-Moretti ait tardé à donner des consignes pour qu'il ne soit plus destinataire de remontées d'informations sur les dossiers dont il a eu à connaître en tant qu'avocat. Et puis surtout, c'est l'affaire dite du PNF. Souvenez-vous, en tant qu'avocat, Éric Dupond-Moretti avait déposé une plainte contre les magistrats du parquet national financier qui avaient épluché ses factures téléphoniques. Il avait dénoncé à l'époque des méthodes de barbouze. Alors certes, il avait retiré sa plainte une fois ministre, mais il avait ouvert une enquête administrative à leur sujet. Juge et partie avaient alors protesté en cœur tous les syndicats. C'est la première fois aujourd'hui qu'un garde des Sceaux en exercice se retrouve dans une telle situation, et on imagine que la rentrée solennelle de la Cour de cassation, qui abrite les magistrats de la Cour de justice de la République qui ont pris cette décision et à laquelle devait assister Éric Dupond-Moretti, risque d'être, disons, un peu tendue. En résumé, on peut vraiment parler d'une situation de crise.
Chloé Trion, du service police-justice d'Europe 1. Gilles Beyer, mis en examen pour agression sexuelle, l'ancien entraîneur de patinage artistique, a été présenté aujourd'hui à un juge qui l'a placé sous contrôle judiciaire. L'ex-patineuse Sarah Abitbol l'avait accusé dans un livre l'année dernière de viol et d'agression sexuelle alors qu'elle était mineure. Ces révélations avaient été suivies par d'autres accusations portées par plusieurs patineuses. Patrick Balkany, de nouveau dans le viseur de la justice. L'ancien maire de Levallois-Perret a été placé en garde à vue mercredi, puis libéré dans la soirée. Il est visé par une nouvelle affaire, abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt notamment. Sa fille a également été entendue. 25 ans, jour pour jour, après le décès de François Mitterrand, la gauche a salué aujourd'hui la mémoire de l'ancien président. La gauche, mais aussi Emmanuel Macron, le chef de l'État, est venu à Jarnac déposer une gerbe sur le tombeau de son prédécesseur. Une présence qui a quelque peu agacé les ténors du Parti Socialiste, comme l'a constaté Jean-Rémy Baudot.
Très bonne année.
Merci beaucoup.
Dans les allées du cimetière de Jarnac, les vœux sont républicains, mais des figures de la gauche, comme François Hollande ou Ségolène Royal, gardent un œil sur Emmanuel Macron.
François Mitterrand appartient à l'histoire. Si en plus, par sa venue, Emmanuel Macron peut rectifier un certain nombre de choses. Ça ne peut être que positif.
Chez les socialistes, rares sont ceux qui croient à une lignée politique entre les deux présidents. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, ne leur trouve d'ailleurs aucun point commun.
François Mitterrand est celui qui a créé l'impôt sur la fortune. Emmanuel Macron est celui qui l'a abrogé. François Mitterrand est celui qui a élargi les conditions d'accueil dans notre pays. C'est Emmanuel Macron qui a restreint les conditions d'accueil des réfugiés avec la loi asile et immigration.
L'entourage d'Emmanuel Macron estime que Mitterrand est une figure qui embarrasse une partie de la gauche. La maire de Nantes, Johanna Roland, assume elle sa filiation.
La question de la pauvreté va certainement être une des questions majeures de 2021. Donc la gauche, elle a cette responsabilité. Proposer des solutions concrètes, ça c'est la grande histoire de la gauche, portée évidemment par François Mitterrand.
François Mitterrand, figure emblématique d'une gauche rassemblée, une idée qui semble aujourd'hui bien lointaine. Jarnac, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Prenons maintenant la direction des États-Unis où Donald Trump a, comme à son habitude, soufflé le chaud et le froid en l'espace de quelques heures. Sa promesse ce matin d'une transition sans accroc n'a pas tenu la journée puisque ce soir, le président sortant annonce qu'il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Bref, du Trump pur jus. Alexis Guilleux, vous êtes à Washington pour Europe 1.
Oui, la transition en douceur évoquée par Donald Trump se fera finalement sans lui. Le président brise ainsi une vieille tradition de la vie politique américaine. Il n'y aura donc pas d'image de Donald Trump et de Joe Biden ensemble devant le Congrès le 20 janvier, là où se déroule la cérémonie d'investiture. C'est exceptionnel, mais ce n'est pas inédit dans l'histoire des États-Unis. Il faut remonter pour cela au 19e siècle pour trouver des exemples. La dernière fois, c'était en 1869, quand Andrew Johnson avait boudé l'investiture d'Ulysses Grant.
Alors Alexis, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si Donald Trump sera encore président au moment de cette investiture. On sait que des voix s'étaient élevées après l'invasion du Capitole par ses partisans. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sérieusement envisager une destitution de Donald Trump d'ici à la fin de son mandat ?
Eh bien, les démocrates font tout pour. Les ténors du parti exhortent le vice-président à déclencher la 4e section du 25e amendement. C'est la procédure la plus rapide pour faire partir Donald Trump, a expliqué le chef démocrate au Sénat. Pour cela, il faut que le vice-président et le cabinet votent pour déclarer le chef de l'État inapte à ses fonctions. C'est très peu probable que cela arrive, selon des sources proches de Mike Pence citées par la presse américaine. Mais les démocrates ont une autre possibilité. La procédure d'impeachment ou de destitution. Nancy Pelosi, la chef de la majorité à la Chambre des représentants, a fait savoir que si le 25e amendement n'est pas adopté, le Congrès avancerait dans cette voie. Seul problème, c'est une procédure plus longue. Elle demande un vote des deux chambres du Congrès. Et là, le temps, les 12 jours qu'il reste, joue plutôt en faveur de Donald Trump. Pourtant, ce matin, l'assistante de Nancy Pelosi a déclaré sur CNN qu'un vote à la Chambre des représentants est envisageable dès le milieu de la semaine prochaine, avant donc un second vote par le Sénat. Ce qui ferait de Donald Trump le premier président américain à être visé deux fois par une procédure de destitution.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et j'ajoute que Joe Biden déclare à l'instant se réjouir que Donald Trump ait décidé de ne pas assister à sa prestation de serment. Il déclare en revanche que le vice-président Mike Pence est le bienvenu. Retour en France où une autre pandémie fait des ravages dans le sud-ouest, celle de la grippe aviaire. 400 000 canards ont d'ores et déjà été abattus et des centaines de milliers supplémentaires vont l'être prochainement, a prédit le ministre de l'Agriculture. 124 foyers de contamination ont été identifiés pour l'heure, la plupart dans les Landes où s'est rendu aujourd'hui Julien de Normandie. Ce virus, on le rappelle, n'est pas transmissible à l'homme. À Nice, la cour d'assises se penche depuis le début de la semaine sur l'affaire Jacqueline Vérac, affaire qui a fait couler beaucoup d'encre sur la Côte d'Azur. Il y a 4 ans, la très riche octogénaire avait été enlevée, séquestrée pendant 48 heures dans une fourgonnette avant de réussir à s'échapper. Le procès de ses ravisseurs s'est ouvert lundi. 14 personnes sont dans le box des accusés. Et pour la première fois, on a entendu la version, les mots de Jacqueline Vérac. Écoutez le récit signé Frédéric Michel pour Europe 1.
Durant une heure, la voix claire, l'esprit vif, l'octogénaire explique sans colère et sans regard pour les accusés que sa vie a changé. Quand je sors, je regarde partout. Est-ce qu'il y aura une autre fois? J'espère pas. En 2013 déjà, la riche femme d'affaires avait échappé à un rapt. Mais ce 24 octobre 2016, elle n'a pas le temps de résister à ses agresseurs. Et Jacqueline Vérac de raconter avec pudeur les heures passées dans cette fourgonnette, bâillonnée avec du scotch, les chevilles et poignets tailladés par les liens. Elle arrivera même à s'en libérer, mais un ravisseur lui tombe dessus quand elle tente de s'enfuir du véhicule. Dans la nuit, c'est finalement un passant qui va la libérer. Il m'a dit « je vais appeler la police ». J'ai dit « non, sortez-moi de là, ils sont dangereux et nombreux ». Une force de caractère saluée par l'avocate générale, Luc Febraro, l'avocat de Jacqueline Vérac.
C'est une femme d'une noblesse extraordinaire. Jamais, à aucun moment, elle n'a exprimé de haine ou envoyé de messages aux juges pour leur demander d'être féroce. C'est une femme qui a du cœur. Ses premiers mots, lorsqu'elle a été libérée, ont été « vite appeler mon fils ». Elle voulait ni psychologue, ni médecin.
Dans le box des accusés, le commanditaire présumé du rapt se lève, s'excuse et clame son innocence. Cet ancien gérant d'un restaurant appartenant à la famille Vérac encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. On termine ce journal avec du ski alpin et la 32e victoire en Coupe du Monde d'Alexis Pinturo. Le Français a remporté aujourd'hui le géant d'Adelboden en Suisse, l'un des grands rendez-vous de la saison.
Adelboden, c'est la piste mythique du géant, c'est la piste où on a toujours envie de briller, d'être le plus possible au maximum de sa forme. Et puis aujourd'hui, bah, ça a été le cas. Alors c'est sûr que je fais une grosse différence sur la première manche et puis après j'essaye de m'accrocher sur la deuxième. Et puis voilà, ça a donné un beau résultat. Alors on aimerait faire ça devant des spectateurs. Mais cette année, c'est comme ça et je pense qu'on peut être déjà très heureux et ça reste toujours aussi mythique de venir ici à Adelboden. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore une troisième course demain en géant. Mais on va déjà essayer de se reposer au maximum. L'enchaînement va être difficile entre les deux géants et puis le slalom de dimanche.
Et grâce à cette victoire, Alexis Pinturo conforte sa place de leader au classement général de la Coupe du Monde. On passe à la météo, Anissa Haddadi. Il va y avoir encore beaucoup de grisailles demain matin.
Oui, sur la moitié nord en particulier. Julien, avec des brouillards qui seront nombreux et localement givrants puisque les températures seront encore très basses demain matin, avec en tout début de journée sur le massif central des flocons et puis dans l'après-midi sur le centre, la région lyonnaise, le Val-de-Saône, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace et la Moselle, ces brouillards auront vraiment du mal à se dissiper et resteront tenaces, prudence. Donc dans le nord-ouest, le temps redevient sec, on en a fini avec les averses sur le littoral de la Manche. Après la dissipation des brumes matinales, l'après-midi est plutôt ensoleillé dans le nord-ouest. Sur les Pyrénées et la Corse, le ciel est très couvert, avec de la neige à basse altitude dans les Pyrénées, des averses toute la journée et un risque d'avalanche sur l'île de Beauté. Les températures, toujours beaucoup de gelée matinale, hein, jusqu'à moins 10 degrés à Orcières, moins 6 à Gap, moins 4 pour Saint-Étienne, moins 2 à Carcassonne, Limoges et Poitiers, moins 1 à Lille et Biarritz, 0 degrés pour Paris, 2 à Marseille et 4 pour Ajaccio. Et puis au meilleur de la journée, c'est stationnaire, ça ne bouge pas, 0 à Clermont-Ferrand, 2 à Colmar, 3 à Lyon, 4 pour Paris et 10 à Marseille.
Merci beaucoup Anissa Haddadi.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h20 sur Europe 1 et c'est Top à Wall Street, toutes les infos de la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street a battu de nouveaux records historiques hier et la séance a été bien plus hésitante aujourd'hui.
Oui, la journée a été hésitante, mais les indices sont remontés en fin de séance et signent finalement de nouveaux records. Record pour le Dow Jones qui gagne 0,18%, 31 097 points. Et pour le Nasdaq qui bondit de 1%, 13 201 points. On reste donc au sommet à Wall Street malgré de nombreuses incertitudes. Il y a les cas de contamination au Covid qui flambent aux États-Unis. Les chiffres du chômage dévoilés aujourd'hui qui sont très mauvais, avec 140 000 postes détruits en décembre. Mais l'idée, c'est que plus ces chiffres sont mauvais et plus le plan de relance économique promis par Joe Biden devrait être musclé. Le futur président américain devrait en dire plus la semaine prochaine. Et en tout cas, les marchés attendent beaucoup de ce fameux plan.
Et certaines valeurs profitent à plein de cet enthousiasme des marchés. C'est le cas notamment du constructeur de voitures Tesla.
Voilà, Tesla qui grimpe de 8% ce soir, de plus de 20% depuis le 1er janvier. Les chiffres donnent le tournis. La valeur du titre a été multipliée par 9 depuis un an, surfant sur le thème de la transition écologique. Les voitures électriques de Tesla se vendent bien, malgré la crise, avec près de 500 000 modèles écoulés en 2020. Autre envolée spectaculaire, celle du Bitcoin. La crypto-monnaie bat de nouveaux records. Elle a franchi aujourd'hui la barre des 42 000 $ le Bitcoin. C'est beaucoup plus tranquille pour l'euro qui cède 0,5% à 1,2205 $.
Retour en France, Claire, où le marché parisien a bien terminé sa semaine en franchissant le seuil symbolique des 5 700 points.
Troisième séance dans le vert et un gain de 0,65% à 5 706 points. Le bilan de la semaine est positif puisque le CAC 40 monte de 2,8%. La plus forte hausse est pour Sodexo, plus 10% pour le géant de la restauration collective. Il souffre toujours bien sûr de la crise mais va relever son objectif de marge. Et puis Washington a finalement choisi de suspendre les droits de douane supplémentaires sur les produits de luxe français. Bonne nouvelle évidemment pour le secteur. LVMH a touché un nouveau plus haut historique aujourd'hui et ça monte aussi pour Kering et pour Hermès.
Et puis on a aussi beaucoup parlé de Publicis aujourd'hui à Paris.
Oui, avec des rumeurs dans la presse britannique, le groupe aurait eu des discussions avec un investisseur privé en vue d'une éventuelle prise de participation. Information que le groupe Publicis dément, mais le titre monte tout de même de plus de 2% ce soir. Fin de semaine dans le vert pour les autres marchés en Europe. Francfort gagne 0,6% et bat un record historique. Londres gagne 0,2%, Milan plus 0,2% également, Madrid plus 0,3% et le CAC 40 gagne 0,65% à 5 706 points ce soir.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à lundi Claire. 22h23 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, Elisabeth Assayag, c'est à vous.
Bonjour Catherine Pégard.
Bonjour.
Merci de nous accueillir en direct depuis le château de Versailles. Vous êtes la présidente, alors on dit de l'établissement public du château de Versailles, du musée et du domaine national de Versailles. Le château de Versailles, c'est une entreprise de près de 1000 salariés. Même fermé depuis le 30 octobre, c'est un château qui mène une multitude de chantiers. En décembre, vous étiez prêt à rouvrir. Et pourtant, depuis hier soir, Jean Castex l'a annoncé, les musées ne peuvent pas rouvrir pour le moment. Quelle est votre première réaction, Catherine Pégard ?
Mais évidemment, c'est la déception parce que nous sommes prêts à ouvrir. Et non pas, je dirais même pas prêts à rouvrir, parce que nous avons réouvert le château de Versailles le 6 juin dernier. Et depuis, nous attendons... Nous avons eu cette joie d'avoir pu ouvrir le château pendant l'été et depuis nous attendons de retrouver une vie un peu plus normale. Car je pensais en venant vous rejoindre à l'instant que ce qui était le plus anormal ici, c'était le silence. Et tout d'un coup, vous animez ces pièces et tout d'un coup, la vie revient. Et en très peu de temps, la vie revient au château de Versailles. Vous êtes arrivé il y a quelques petites heures et tout d'un coup, la vie s'est animée, les équipes ont retrouvé le sourire. Parce qu'il se passe quelque chose. Et au château de Versailles, il s'est toujours passé quelque chose, puisque ce château accompagne la vie de la France depuis sa création, et c'est ce que voulait le roi Louis XIV.
Vous, vous vous sentez prête à rouvrir? Si on vous annonce aujourd'hui une réouverture dans 3 jours, vous êtes prête parce que ce château, il vit encore aujourd'hui, il ne s'est pas complètement arrêté, et vous pouvez rouvrir parce que notamment vous savez gérer les jauges aujourd'hui.
Oui, parce que nous savons gérer les jauges, mais j'allais dire, ça c'est la fin de l'histoire. Ce qui est important, c'est les équipes. C'est les équipes qui vont permettre cette réouverture. Et c'est parce qu'eux n'ont qu'une envie, c'est de voir ces grilles s'ouvrir, que ce château pourra rouvrir, je l'espère, rapidement, dès qu'on en aura l'autorisation.
C'est un château qui n'a jamais été fermé. Je crois même pendant la Seconde Guerre mondiale, à peine...
Alors, il a été fermé, mais c'était des circonstances exceptionnelles.
Mais
de
sinon,
la guerre,
c'est la première fois.
Et c'est la première fois qu'il reste fermé pendant des jours et des jours. Dans le premier confinement, nous avons été fermés 83 jours. Et ça, je crois que c'était totalement inédit.
Mais vos équipes nous disent, ici on continue à faire le ménage comme si on était prêt à rouvrir demain matin. On continue à tout faire tourner parce que si jamais on doit rouvrir, on doit être absolument prêt. Il n'est pas question de pouvoir dire, bah, attendez, maintenant il nous faut une semaine pour s'organiser.
Alors il faudra quelques jours quand même pour s'organiser un tout petit peu si ce temps de fermeture dure trop longtemps. Mais effectivement, il faut être prêt. Mais il faut être prêt aussi, j'allais dire, c'est notre, premièrement notre devoir. Et deuxièmement, c'est notre passion. Et on peut pas se dire que notre travail se fait dans un lieu fermé. Ça n'existe pas. Et encore moins au château de Versailles, encore une fois, dont toute l'histoire témoigne d'une vie qui n'a pas de cesse, avec des visiteurs qui viennent du monde entier, qui ont des histoires différentes et qui ont construit l'histoire du château de Versailles.
Alors quand vous dites que vous êtes prêt, ça signifie que vous vous êtes adapté à cette situation inédite. Ça signifie quoi ? Ça signifie que vous avez mis en place des jauges ? Ça signifie que la réservation va devenir la norme pour venir chez vous ?
Alors bien sûr, on a mis en place une jauge dès le début au mois de juin pour la réouverture. Cette jauge, j'allais dire que maintenant, elle est adaptable. Si on nous demande demain matin d'avoir des consignes plus strictes encore, on réduira encore la jauge. Le problème à Versailles, ce n'est pas un problème d'espace, comme vous pouvez le voir. Habituellement, le terme de jauge est un terme qui intervient vraiment dans des moments extrêmes. Au 15 août, quand il y a 35 000 visiteurs au château de Versailles dans une journée. Mais autrement, on ne parle jamais de jauge parce qu'il y a l'espace pour ne jamais se croiser.
Il y a 7 millions de visiteurs, quand tout va bien, du côté du château de Versailles. La billetterie, c'est une énorme partie de vos ressources propres. Je crois que c'est 70% environ,
oui, c'est deux tiers
de vos ressources. Près, oui. Comment vous faites aujourd'hui pour compenser ?
Aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose pour compenser. On a la chance que l'État nous soutienne et que l'État ait voulu nous inclure dans ce plan de relance de l'économie nationale. Et effectivement, la culture fait partie de l'économie de la France. Le tourisme culturel fait partie de l'économie de la France. Et c'est à ce titre que le gouvernement, très vite, a décidé de soutenir des lieux comme le château de Versailles et comme tous les grands établissements culturels français.
Justement, au niveau des aides, vous avez reçu 10 millions d'euros de la part de l'État en 2020, une enveloppe de 87 millions accordée au titre du plan de relance en 2021-2022. Est-ce que, selon vous, Catherine Pégard, ce sera suffisant ?
À ce jour, je ne peux pas le dire, mais malheureusement, chaque jour qui passe fait que l'on se dit que, sans doute, on retrouvera la même discussion avec le gouvernement au printemps prochain, pour y réussir à envisager les années qui viennent.
Parce qu'il y a bien une seule certitude, c'est qu'on ne va pas rouvrir normalement et sûrement pendant très longtemps. S'il y a moins de monde dans le musée, on disait un deux tiers vient de la billetterie, est-ce que ça veut dire qu'il faut se résoudre à augmenter le prix du billet ? Il peut y avoir une raison à cela, puisque s'il y a moins de monde, on fait une visite de meilleure qualité.
Bien sûr, il y a une raison, mais je crois qu'il serait assez indécent aujourd'hui de parler d'augmentation du billet. Le château de Versailles n'est pas un îlot solitaire dans la vie économique de la France. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés énormes. Et aujourd'hui, parler d'augmentation du prix du billet me semble assez difficile. En revanche, essayer d'adapter nos visites, de faire en sorte peut-être qu'il y ait des visites qui soient proposées à un tarif plus élevé parce que l'offre sera plus importante, ça évidemment, nous l'étudierons et nous commençons déjà à y penser.
Un grand merci à Catherine Pégard. Je rappelle que vous êtes la patronne de l'établissement public de Versailles. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Nous, on se retrouve lundi 22h20 pour l'interview Écho.
Merci Emmanuel Dutheil. Emmanuel, que l'on retrouvera également lundi à partir de 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Ils recevront Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, au programme le CES de Las Vegas, la grand-messe des nouvelles technologies qui sera cette année en version dématérialisée, pandémie oblige. Rendez-vous lundi donc à partir de 13h. Mais en attendant, restez avec nous puisqu'il est grand temps d'ouvrir la libre antenne. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous?
Je vais bien, je vous remercie, et vous?
Très très bien. 39 21 pour vous appeler et pour témoigner donc dans la libre antenne qui débute maintenant.